Il est 8h. S'allier pour peser davantage, est-ce aujourd'hui la seule façon d'exister face à la concurrence des plateformes comme Netflix? C'est en tout cas la conviction de TF1 et de M6 qui s'apprêtent à fusionner. Le géant pèsera près de 3,5 milliards d'euros. Le déconfinement J-1, notamment dans les salles de spectacle et en EHPAD, des établissements pour personnes âgées confrontées à une crise de confiance inédite. Ils doivent même désormais tirer les prix vers le bas pour espérer attirer de nouveaux résidents. Au Proche-Orient, la stratégie des roquettes du Hamas, outil politique tout autant que militaire. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. La droite éparpillée façon puzzle, la lutte contre l'insécurité, la piste choc pour la natalité et l'immigration. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Elle partage déjà la diffusion des matchs de l'équipe de France de foot. Ce soir d'ailleurs, c'est sur les deux antennes simultanément que Didier Deschamps présentera sa liste pour l'Euro le mois prochain. Mais TF1 et M6 vont bientôt partager un peu plus que le ballon rond.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
L'annonce a été faite hier soir. TF1 va donc fusionner avec M6 qui était à vendre ces derniers mois.
Oui, c'est Koh-Lanta et Top Chef à l'heure de la réunification. C'est une révolution dans le monde des médias. TF1 aura 30% du nouvel ensemble, propriétaire de M6 16% et le reste sera coté en bourse. Les discussions engagées depuis des mois se sont scellées hier au terme d'un week-end très actif selon un des participants. Pour monter ce nouvel ensemble, TF1 va payer près de 700 millions d'euros. À l'heure de la concurrence de Netflix et d'Amazon, c'est la naissance d'un groupe français gigantesque à présent sur tous les marchés. La radio avec RTL, la production de séries, 10 chaînes gratuites dont TF1, M6, TMC ou encore Gulli, des sites internet comme Doctissimo, des sites de replay, de VOD, etc.
Sauf que ce rapprochement, Emmanuel, il soulève de nombreuses questions, notamment en matière de concurrence.
Oui, la loi est très claire, il n'est pas possible pour un même groupe d'avoir plus de 7 chaînes gratuites, il va donc falloir en vendre 3. Officiellement, le choix des chaînes n'est pas encore arrêté. Autre point très problématique, le nouvel ensemble va représenter environ un tiers de part d'audience télé et les trois quarts du marché publicitaire. Là aussi, ça va faire tiquer. L'autorité de la concurrence doit se décider à l'été 2022. Les deux groupes ont un argument pour convaincre. Ils veulent que l'on regarde le marché publicitaire dans son ensemble, c'est-à-dire le marché télé plus le marché numérique, ce qui n'est pas prévu pour le moment, d'où un immense lobbying à venir des deux groupes. Si cette opération historique devait être finalisé, le rapprochement aurait lieu fin 2022 et c'est Nicolas Taverneau, l'actuel patron de M6, qui deviendrait le patron du nouvel ensemble.
18 mois donc pour fusionner, explication signée Emmanuel Duteil pour Europe 1.
Et on reviendra bien sûr sur la naissance de ce géant de l'audiovisuel français tout à l'heure avec Philippe Vandel à partir de 9h dans Culture Média sur Europe 1.
Le monde de la culture qui, comme les bars, les restaurants, les magasins, s'apprête à lever le rideau. Les salles de spectacle rouvrent demain avec une jauge et une capacité d'accueil limité. Et après 6 mois loin du public, les retrouvailles se préparent comme à la scène musicale à Boulogne-Billancourt où Angèle Châtelier a assisté à la générale du spectacle La Nuit des Rois.
Dans les couloirs de la scène musicale, les chanteurs se chauffent la voix. Les musiciens accordent leurs instruments. Cette répétition du spectacle La Nuit des Rois, sorte de thriller politique autour de ballades de Schumann, est la dernière avant de retrouver le public pour 2 représentations. Laurence Equilbé, la chef d'orchestre, savoure.
C'est vrai que le fait qu'on se soit tellement arrêté pendant longtemps, tout d'un coup reprendre le rythme à fond, c'était quelque chose, il fallait prendre un peu de vitamine. C'est vraiment une joie intense.
Même s'il y aura à peine 3 fois plus de spectateurs que de musiciens. Sur scène, ils sont environ 75 et joueront devant seulement 250 personnes. Mais ces 2 dates, c'est surtout pour marquer le coup de la réouverture. Peu importe les contraintes, nous dit le metteur en scène, Antonin Baudry.
Certains choristes ont un masque, un peu distrait sur scène, mais voilà, je crois qu'on vit les potes qu'on vit et que ça fait partie des choses. J'avais la conviction qu'on allait jouer et que c'était vivant. Et je suis très content parce qu'on a eu raison et on va jouer.
Et le public, semble-t-il, n'attendait que ça. Une fois la date du 19 mai annoncée par le gouvernement pour lever le rideau des salles, les places pour la Nuit des Rois se sont vendues en quelques jours.
De la musique.
C'est dur de couper. Hein.
En live. Oui, ça fait
du
bien.
Là, à la radio, bientôt en live.
Et dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, la ministre de la Culture l'assure. Hein, le public est en sécurité dans les salles. Roselyne Bachelot qui appelle aussi à la fin des occupations de théâtre.
Ils ont été parmi les premiers confrontés à l'épidémie l'an dernier Et entre une mortalité élevée et des restrictions drastiques, les EHPAD font aujourd'hui face à une nouvelle difficulté. Ils peinent à attirer de nouveaux résidents.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressée à ce phénomène assez marqué. Avant la crise, il fallait s'inscrire sur des listes d'attente pour espérer avoir une place dans ce genre d'établissement. Aujourd'hui, au contraire, une place sur 10 n'est pas occupée, selon une estimation du CINERPA, le principal syndicat des maisons de retraite. Une forme de défiance qui a des conséquences d'ores et déjà très concrètes sur les prix.
Oui, bah écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais voilà ce que me confiait un directeur d'EHPAD. En ce moment, il ne faut pas hésiter à négocier. Parfois, ce n'est même pas nécessaire. C'est ce qu'a vécu Sylvain il y a quelques jours, alors qu'il cherchait un établissement pour sa mère en région parisienne.
J'ai appelé pour prendre des renseignements et assez rapidement, au bout de 10 secondes, on me dit que la chambre en fait, qui était à 100 euros à la base, on pouvait me la faire à 80 euros. On passe de 3000 euros à 2500 euros le mois. J'ai été surpris par le prix que tout de suite on m'a donné parce que je pensais que le prix des chambres en fait, était fixé. On ne pouvait pas transiger sur les prix. Et en fait, sans même négocier, c'est eux qui le proposent.
Et là encore, ça s'explique. Si vous avez moins de 95% de taux d'occupation, l'assurance maladie baisse ses dotations. Du côté des établissements privés, c'est indispensable aussi de remplir. C'est vraiment sur les dernières places qu'ils deviennent rentables, un peu comme dans les avions. Et puis, il y a urgence à restaurer la confiance des Français, car si pour le moment le gouvernement compense le manque à gagner, forcément, ça ne va pas durer éternellement.
Demain, le protocole sanitaire sera allégé dans les EHPAD avec une liberté de circulation retrouvée. Est-ce que ça, c'est susceptible de rassurer les potentiels candidats et leurs familles ?
Bien sûr, parce que ce que craignent le plus en fait les familles, c'est de placer leurs proches et puis de plus pouvoir leur rendre visite derrière. Alors pour lever ces réticences, le nouveau protocole est très clair. Les résidents d'EHPAD ont le droit d'aller et venir comme tous les citoyens. Ils ont le droit aux visites en chambre, aux sorties en famille. Les visites peuvent toutefois être interdites s'il y a 3 cas de Covid dans l'établissement. Même cette dernière mesure n'a plus de sens et devrait être supprimée, selon Florence Arnaïs-Momé. Elle est déléguée générale du CINERPA, le syndicat national des maisons de retraite.
Nous avons tout à fait aujourd'hui la capacité de prendre en charge plusieurs résidents Covid dans leur chambre et de laisser l'ensemble des résidents vivre leur vie et bien évidemment permettre également les visites des familles. Et nous voyons bien aujourd'hui que des familles s'empêchent de placer leurs parents en EHPAD de peur que de nouvelles restrictions leur soient opposées. Et donc nous demandons à l'État la suppression pure et simple de tout protocole restreignant les libertés en EHPAD.
Et l'un des arguments des professionnels pour lever toutes ces restrictions, c'est qu'aujourd'hui, 90% des pensionnaires des EHPAD sont vaccinés.
Dossier signé Carole Ferry pour Europe 1.
Les préconisations de l'Agence internationale de l'énergie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, plus aucun projet d'exploration pétrolière ou gazière dès à présent et plus de vente de voitures thermiques après 2035.
8h08 sur Europe 1. Votre journal se poursuit dans un instant. Didier Deschamps osera-t-il bousculer les lignes pour l'euro dans un mois ? À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, Marion Calais.
Une nouvelle réunion à l'ONU ce mardi et des initiatives autour de l'Égypte notamment. Mais si la diplomatie tente l'apaisement au Proche-Orient sur le terrain, les roquettes continuent de répondre aux raids israéliens.
Nous continuerons à frapper les cibles terroristes, disait hier soir Benjamin Netanyahou. Et de son côté, le porte-parole du Hamas promet aussi de continuer à répliquer. Nous avertissons Israël que s'il ne cesse pas maintenant de viser les maisons sécurisées à Gaza, nous frapperons à nouveau Tel Aviv.
3500 tirs de roquettes depuis la semaine dernière pour un enjeu qui n'est pas que militaire. Explication pour Europe 1 de Jean-Sébastien Soldaini.
À sa façon, le Hamas pousse Israël à dépenser sans compter. Chaque tir du dôme de fer, c'est 50 000 $. Depuis une semaine, le système a donc coûté plus de 150 millions de dollars. Mais Qatar Abou Diab, spécialiste de la région à l'université Paris Sud, voit une autre raison. Le calcul du Hamas dépasse le simple cadre économique. Ces tirs de barrage sont avant tout politiques.
C'est un bras de fer pour les leaderships palestiniens à l'intérieur, pour montrer que Hamas est derrière des Palestiniens, soit à Jérusalem, soit à Gaza, pour embarrasser Mahmoud Abbas, oui.
Mahmoud Abbas et son mouvement, le Fatah, passent ainsi pour incapables de défendre la cause palestinienne. L'enjeu de ces tirs, c'est aussi une question d'influence régionale. L'armement du Hamas est fourni et financé en grande partie par l'Iran, grand ennemi d'Israël. Chaque départ de roquette est en quelque sorte signé Téhéran.
Jean-Sébastien Soldaini.
Le rendez-vous est donc fixé ce soir à 20h20. Et on vous le disait tout à l'heure, c'est donc sur M6 et TF1 que Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour l'Euro le mois prochain.
Et a priori, à la clé, Cyril de la Morinerie, des confirmations, oui. Et peut-être une surprise.
Oui, alors la confirmation, c'est d'abord le noyau dur de champion du monde avec les défenseurs, notamment le défenseur Raphaël Varane, l'infatigable N'Golo Kanté, jusqu'à Antoine Griezmann. Ils sont une quinzaine à s'être distingués en Russie. Didier Deschamps devrait faire appel à trois gardiens, bien sûr le capitaine Hugo Lloris, le pilier de l'OM Steve Mandanda, le Lillois Mike Maignan. En défense, il faudra trouver un remplaçant à Ferland Mendy, blessé peut-être le monégasque Ruben Aguilar. En milieu, le précieux Moussa Sissoko devrait arracher l'un des derniers billets. Et puis en attaque, vous allez vous me voyez venir, il y a Kylian Mbappé bien sûr, hein, la grande star de l'Euro. Quant à Olivier Giroud, malgré un faible temps de jeu en club, il a toujours la confiance de Didier Deschamps. Dans la surprise dont vous parliez, c'est bien sûr Karim Benzema, l'attaquant de 33 ans, n'a plus remis les pieds à Clairefontaine depuis 2015 et la fameuse affaire de la sextape. Cette phrase, Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, lui a sans doute valu une mise à l'écart prolongée, mais le sélectionneur a montré qu'il savait pardonner en rappelant Adrien Rabiot qui avait refusé d'être réserviste en 2018. Or, Karim Benzema est dans la forme de sa vie, il marque but sur but avec le Real Madrid. Il n'a jamais caché son désir de rejouer en équipe de France. Imaginez, Benzema associé à Mbappé, vous auriez tout simplement la meilleure attaque du monde.
Ouais, on verra si Didier Deschamps ose donc ce soir ou
pas.
En tout
cas, l'équipe a osé titrer l'hypothèse d'un retour et ça a suffi à enflammer Twitter absolument toute la nuit avec les mots Benzema, Deschamps, Giroud, etc. etc. Merci Cyril de la Morinerie et merci Marion Calais. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, l'invité politique d'Europe 1, François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, au micro de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains.
Bienvenue à vous et bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Le premier flic de France, Gérald Darmanin, dans la rue demain, lors du rassemblement des policiers, c'est sa place ?
C'est très étonnant, c'est la première fois je crois qu'on voit un ministre de l'Intérieur manifester contre sa propre inaction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une manifestation organisée par des policiers qui disent leur colère, leur désespoir même devant la violence qui les frappe tous les jours, toutes les nuits, hier soir encore à Argenteuil, une violence qui se déploie en toute impunité. Et le ministre de l'Intérieur vient, alors je sais pas, moi je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on a mieux à faire que manifester, on a les leviers pour agir. Et c'est ça qui est attendu aujourd'hui de Gérald Darmanin. Le problème, c'est qu'il fait partie de ce gouvernement qui se vante d'avoir sorti 13 500 détenus de prison à l'occasion de la crise
dans
du coronavirus.
Dans des conditions particulières, vous le savez.
13 500 détenus de prison. Vous savez aussi que pour rentrer en prison aujourd'hui en France, il faut vraiment l'avoir voulu. Et donc, il y a quelque chose, des gens qui sont condamnés, pas qui sont en détention préventive. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'indécent aujourd'hui dans le fait de vouloir assumer dans une espèce de « en même temps » absurde, à la fois cette politique complètement laxiste du point de vue judiciaire, et en même temps de venir manifester aux côtés des policiers.
Vous y serez,
je crois que si le gouvernement continue comme ça, le ministre de l'Intérieur deviendra le ministre des coups de menton et des condoléances et je ne crois pas malheureusement que ce soit de très bon augure pour la sécurité et pour la paix civile en France.
Il y a les condoléances, pardonnez-moi, il y a l'émotion que le ministre de l'Intérieur vienne soutenir les policiers après les chocs de Rambouillet et d'Avignon. En quoi ce serait malvenu qu'il apporte son soutien en cette période ?
Mais c'est évidemment très bienvenu qu'il apporte son soutien, mais le soutien que je crois les policiers et les gendarmes attendent, c'est celui de l'action du ministre chargé de les représenter, c'est celui de la reconstruction d'une chaîne pénale qui soit
annonce
efficace.
De peine durcie, annonce de mesures en partie attendues par les policiers et les syndicats de police, ça ne vous paraît pas suffisant ?
Il ne s'agit même pas seulement d'ailleurs de durcir les peines sur le papier, il s'agit de faire en sorte qu'elles soient appliquées et de se donner les moyens qu'elles le soient. Aujourd'hui, le grand problème dans notre pays, et notamment pour pouvoir justement répondre à ce défi de la sécurité, c'est la restauration, la reconstruction de notre chaîne pénale. On a une justice qui est sous-dotée depuis très longtemps, qui n'a pas les moyens de ses missions.
Ah, il suffit de comparer les chiffres. Que ce soit la droite ou la gauche, quand vous étiez
mais bien
pas
sûr,
vous, au
je
pouvoir,
ne dis absolument pas le contraire. La droite est comptable de ce bilan, comme la gauche, parce que malheureusement, depuis longtemps, nous avons laissé se dégrader les outils régaliens de l'État. Cela étant dit, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, et les gouvernements de droite ne se sont jamais fait gloire d'avoir fait sortir de prison 13 500 détenus d'un coup
mais quelle solution,
à la faveur d'une crise épidémique.
Hier, ce fut une nuit de tension et de violence dans une cité sensible d'Argenteuil, avec des tirs de mortier encore et encore sur les forces de l'ordre, un député de La République En Marche, François Jolivet, propose plus largement d'engager, dit-il, la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants. Vous soutenez, vous signez tout de suite ?
Mais encore une fois, je crois que le principal n'est pas de faire preuve de créativité juridique pour produire de nouvelles peines. Oui, on peut réfléchir à la question de la responsabilité des parents. Je crois qu'il y a aussi beaucoup à faire sur la manière de les accompagner en amont. On est devant des parents aujourd'hui qui sont perdues, des familles qui sont fracturées devant la déconstruction de l'autorité éducative. Et l'éducation est l'un des sujets majeurs pour faire face aussi à ce défi de la fracturation de la société.
C'est intéressant ce que vous dites, l'éducation. On en parle peu, souvent, à droite. Ce sont des mesures de répression, de fermeté, et on oublie l'autre jambe.
Mais les deux sont complémentaires, hein, bien sûr. Encore une fois, je crois qu'on a un défi majeur qui est celui de reconstruire la chaîne pénale. Je prends des comparaisons européennes toutes simples. Je le vois tous les jours au Parlement européen. En Allemagne, vous avez 25 juges pour 100 000 habitants. En France, vous en avez 10. La moyenne européenne, c'est 12 procureurs pour 100 000 habitants. En France, on en a 3. Si la France doublait le nombre de places de prison dont elle dispose, elle rejoindrait à peine la moyenne européenne. Donc, en fait, la question, c'est pas seulement d'inventer des nouveaux délits, c'est de se donner les moyens de faire appliquer les peines. Parce que il y a aussi un défi éducatif, et il n'y a rien de pire sur le plan éducatif que de promettre une sanction et de ne pas l'appliquer.
Mais est-ce que vous
et
êtes
le
crédible?
Défi éducatif, oui. Je suis d'accord avec vous, il est majeur. On ne peut pas parler seulement de la répression, on ne peut pas parler seulement de la police et de la gendarmerie.
Mais est-ce que vous
parce êtes... que quels que soient les efforts des policiers et des gendarmes, on ne mettra pas un policier derrière l'épaule de chaque Français. Si on a manqué le travail éducatif, si on a détruit l'autorité dès l'enfance, on ne
vaste
peut pas s'attendre
défi,
à ce
François
que la société
Xavier
fonctionne
Bellamy.
Bien.
Mais est-ce que vous êtes crédible, vous, à droite, chez les Républicains, pour mener tout cela? Parce qu'on ne sait pas où les Républicains habitent ce matin encore, et vous allez y participer à un comité stratégique chez les LR pour décider du sort de Renaud Muselier. C'est un vrai feuilleton de telenovela. Ça se termine quand?
Ça se termine, j'espère, dans la clarté. Renaud Muselier, et c'est ça le plus
c'est
important.
C'est pas encore arrivé. Hein.
Renaud Muselier a fait le choix de s'allier avec La République En Marche dans le Sud. Moi, je ne suis pas passionné par les sujets de parti, mais je sais seulement une chose, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Parce
alors,
que
dites-moi
si on
clairement,
manque de cette
est-ce que
clarté,
vous lui retirez l'investiture Les Républicains, Renaud Muselier?
Mais c'est ce dont nous allons parler ce matin,
mais
et
vous,
je crois qu'il
avis.
Le faut. Je crois qu'il le faut, bien sûr, parce que je ne reproche rien à ceux qui pensent qu'il faut s'allier avec La République En Marche. Je veux dire par là que j'aime le pluralisme démocratique, que chacun suive ses convictions, mais je crois que la responsabilité de la droite, c'est d'incarner une alternative. Parce que si nous critiquons la politique du gouvernement, comment les Français peuvent-ils comprendre que nous nous allions avec
lui ensuite?
Puisque
vous êtes un adepte de la clarté, est-ce que pourriez-vous nous dire, si vous étiez un électeur, Les Républicains en région PACA, pour qui vous votez? Renaud Muselier, qui a des marcheurs sur sa liste, ou Thierry Mariani, ex-LR de votre maison devenu RN?
Ah, moi, je vous dis très simplement, si j'étais en PACA aujourd'hui, je serais absolument déprimé parce que de l'autre côté.
C'est pas la question
côté,
que je vous pose. Je vous demande pas votre
c'est la réponse
d'esprit.
Que je vous donne.
Oui,
parce que de
ça,
l'autre côté.
Pas de la clarté,
parce que de l'autre côté,
monsieur
on a
Bellamy.
Monsieur. Pardon, je termine. On a monsieur Mariani. Monsieur Mariani est comptable de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Je suis fasciné de ce que parfois des électeurs du Rassemblement National me disent « Vous qui avez été au pouvoir, vous n'avez rien fait. » Mais moi, je n'ai jamais été au pouvoir. Monsieur Mariani, lui, il y a été pendant des années. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été député de droite pendant des années. Est-ce qu'on l'a entendu? Et par ailleurs, je le vois tous les jours au Parlement européen, sur des sujets qui touchent, par exemple, au combat que je mène aujourd'hui pour la justice à l'égard
monsieur
de
Bellamy,
l'Arménie.
Vous voteriez
monsieur
blanc,
monsieur
alors
Mariani ne me paraît pas
j'ai
être
compris
de ceux qui mènent les combats les plus
très bien
justes.
Mais à ne
donc,
pas répondre clairement, vous risquez de mourir de vos ambiguïtés.
Ah
est-ce que vous me dites ce matin que vous voteriez pour, si vous étiez
moi,
un électeur?
Moi, je ne voterai pas. Je vous dis très simplement, je ne voterai pas pour Monsieur Mariani. Non, je ne voterai pas pour Monsieur Mariani
donc
parce
vous
que
votez
Monsieur Mariani.
Pour Monsieur Muselier?
Je ne voterai pas non plus pour Monsieur
donc
Muselier.
Vous votez blanc.
Je serai totalement déprimé et je serai contraint de voter blanc parce que je ne serai pas représenté. Et ce pourquoi j'ai milité dans
donc
les derniers
le
jours.
Donc contre le Rassemblement National.
C'est très clair.
Et
ce
Monsieur
pourquoi,
Muselier,
ce,
vous votez blanc.
Ce pourquoi j'ai milité pendant tous les jours qui se sont écoulés depuis l'annonce du Premier ministre disant qu'il allait soutenir Renaud Muselier, c'est pour que notre famille politique crée une liste dans cette région pour que nos idées soient représentées. Je regrette que ça n'ait pas été le cas. Et on arrive à cette situation tragique où effectivement, nous ne sommes plus représentés.
Mais
et
vous
moi,
mettez,
ce que,
attendez, vous
ce
mettez que, sur le même plan Thierry Mariani, Rassemblement National, et quand même Renaud Muselier, encore à l'instant où l'on se parle Les Républicains, et vous n'êtes pas capable de me dire qui vous choisissez.
Mais encore une fois, le drame, je ne suis pas le seul dans ma famille politique. Je pense à Éric Ciotti, je pense à Bruno Retailleau. Nous sommes nombreux à nous dire que nous ne voulons pas de cette espèce de situation mortifère dans laquelle nous serions privés d'alternatives. Et c'est contre cette situation dramatique que je m'engage aujourd'hui.
Mais vous
le
vous
sujet,
rendez compte, ce matin,
sujet,
un électeur Les Républicains en PACA qui nous écoute et qui n'a pas, non,
mais
pas de consigne
pas,
de vote.
Je ne vais pas recevoir de leçon de morale. Je vous dis comment je détermine mon engagement. Tout ce qui me conduit à m'engager aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstruire une alternative pour la France.
D'ailleurs,
parce que derrière la question des régionales, le plus important, c'est la question du choix que nous offrons aux Français l'an prochain.
François-Xavier Bellamy, votre camp
vous
dites-vous établir une frontière, pardonnez-moi, étanche avec Emmanuel Macron, mais ce matin, vous ne dites pas la même chose par rapport au Rassemblement National. Est-ce que vous dites clairement,
il
faut une frontière étanche?
Je vous ai dit, je ne parle même pas de frontière étanche, je vous dis simplement que je ne pourrai pas voter pour M. Mariani, parce que M. Mariani, d'une part, est comptable de l'état de la France aujourd'hui,
Ni pour M. Muselier, quand même, qui fait partie de votre alliée, de votre famille.
Sonia Mabrouk, je crois que vous comprenez parfaitement ce qui est en train de se jouer. Ce qui se joue, c'est qu'en nous obligeant, en nous obligeant à nous prononcer pour une option ou pour une autre, pour En Marche ou pour le Rassemblement National, on condamne la démocratie française à ce désespoir perpétuel. Et moi, je ne veux pas être obligé de me dissoudre dans l'une ou l'autre de ces deux polarités qui sont, au fond, deux opportunismes, on le voit très bien avec M. Mariani, qui sont deux calculs électoralistes qu'on a vu avec M. Muselier récemment.
Au risque de faire, au risque, ou alors ça dépend si c'est pas un risque pour certains, mais de faire gagner le Rassemblement National en région PACA.
Le seul risque, mais les électeurs de PACA sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils doivent voter, ce qu'ils veulent voter, pour le discerner. Moi, ce que je vous dis, c'est que mon travail comme responsable politique, c'est d'essayer de ne pas me laisser enfermer dans cette espèce de duel absurde.
Un sujet qui fait consensus à droite, c'est la maîtrise, voire un moratoire sur les flux migratoires. Mais sachant que la natalité baisse, et pour sauver le modèle social français, François Bayrou plaide pour un pacte démographique avec plus d'accueil, mais sous certaines conditions. Plus d'accueil, donc d'immigrés. Que lui répondez-vous ?
Je trouve incroyable cette vision des choses qui consiste à penser qu'on peut déplacer des individus au gré de nos calculs démographiques, de nos besoins économiques. Au fond, cette vision rejoint celle que la gauche défend, qui est un mélange de bons sentiments, de naïveté et d'une forme de calcul intéressé. Ce qui s'est passé en Allemagne au moment de la crise migratoire, que d'ailleurs M. Bayrou cite comme un exemple, quand l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés sur son sol, M. Bayrou écrit que cette décision était très largement soutenue par le patronat allemand, ce qui est vrai, parce qu'il y avait besoin de bras pour faire tourner les usines, parce que la crise démographique est bien plus forte encore en Allemagne qu'elle ne l'est en France aujourd'hui. Le problème, le vrai problème, c'est que d'abord, cette vision est d'un cynisme sans nom.
Pourquoi ?
Je vois aujourd'hui au Parlement européen, nous allons voter un rapport présenté par les socialistes français qui nous dit qu'il faut regarder les pays en développement, les pays de départ migratoire, comme un réservoir de talents. Un réservoir, c'est-à-dire dans quoi on vient se servir.
Est-ce que vous n'êtes pas dépassé dans ce que vous dites ? Plus de 5000 migrants ont déjà atteint l'enclave espagnole de Ceuta en une journée lundi, venus des plages marocaines, par la mer, à la nage, utilisant parfois des bouées gonflables ou des canaux pneumatiques. Qu'est-ce que vous faites face à de telles arrivées ? C'est déjà sur le sol européen.
Le vrai défi, ça n'est pas de baisser les bras en se disant que de toute façon, on en aura besoin pour faire tourner des usines. La vérité, c'est que nos sociétés sont déjà très profondément fracturées. Quand Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, s'enthousiasme de la créolisation de la France, se réjouit et fait applaudir le
c'est un mot de l'écrivain Édouard Glissant.
Que 50% de la population française sera métissée en 2050. La vérité, c'est que ce n'est pas du tout une créolisation qui est en train de se produire. C'est une fracturation.
C'est une
merveilleux, la créolisation est en train de se produire, 50% de la France sera métissée en 2050. Pour le dire autrement, Jean-Luc Mélenchon dit, le grand remplacement, ça n'existe pas, mais c'est quand même génial. Quel peuple est assez fatigué pour applaudir le fait que des gens venus d'ailleurs sont en train de le transformer, parce que c'est ce qui est en train de se produire. Et par ailleurs, cette vision raciste, parce que c'est une vision raciste de la société.
Qui est une vision raciste de la société ?
Mais dire que la société est en train de se métisser, c'est regarder les gens.
Jean-Luc Mélenchon serait raciste en parlant de créolisation ?
Moi, je trouve ça très raciste de parler de cette espèce de jubilation du métissage. La vérité, c'est que ça ne correspond pas du tout à l'identité de la nation française. La France, ça n'est pas une ethnie qu'on vient métisser. La France, c'est une culture qu'on vient rejoindre.
Vous allez nous dire assimiler.
Il faut s'assimiler, bien sûr.
Mais pour paraphraser De Gaulle, on peut assimiler des individus, mais peut-on assimiler des peuples ?
Et pour le coup, pardonnez-moi de le dire, mais il y a une convergence parfaite de ce point de vue-là entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron qui déclarait en décembre dernier dans l'Express qu'il fallait rompre avec l'idée de l'assimilation et retirer ce terme de notre code civil. Le code civil dit aujourd'hui que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté nationale. C'est une vision profondément universaliste, une vision qui est justement opposée à toute forme d'ethnicisme. Et il y a de fait des Français venus d'ailleurs qui ont donné dans toute l'histoire leur vie pour la France, des Français venus d'ailleurs qui ont illustré la littérature, la culture française parce qu'ils l'ont rejointe et qu'ils l'ont épousée. Mais cette prétention au métissage est une forme de violence absurde.
Raciste,
et une conception,
savez-vous dire.
Une conception, encore une fois, je le redis, ethniciste de l'identité française que je crois totalement contradictoire avec nos principes fondamentaux.
Merci François-Xavier Bellamy d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Amélie Dez.
Le compte à rebours est lancé plus que quelques heures avant la réouverture des cinémas, des théâtres et des terrasses. Demain, un peu de liberté retrouvée pour le plus grand bonheur des clients, des restaurateurs et des spécialistes des aménagements extérieurs. Ce sont eux qui fournissent la matière première des terrasses éphémères qui ont fleuri un peu partout. L'entreprise Vosges Thermobois, située près de Gérardmer dans les Vosges, est débordée de commandes. Ses 7 salariés travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines. Arthur Mbaché est allé les rencontrer pour Europe 1.
Là, ça va pour un resto, là. Il vient récupérer ça tout à l'heure.
Des planches. Entre 600 et 800 mètres carrés de terrasses produits chaque jour. Ici, le bois est traité par les équipes de Charles et Sabrina grâce à un immense four.
Chariola va rentrer dedans.
Traitement contre l'humidité, les champignons, les insectes et évidemment aussi le verre de bière que vous allez renverser dès demain soir.
Comme une chaudière en fait, on a 3 énormes brûleurs avec la ventilation qui brasse l'air et qui va le monter jusqu'à 237.
Les patrons de bar et les restaurateurs appellent sans arrêt, le carnet de commandes de Vosges Thermobois déborde.
On a plein de travail.
Alors, ah oui, pourvu que ça dure.
C'est de 5h du matin jusqu'à 21h le soir. Bah, moi ça fait 11 ans que je suis là, on n'a jamais fait ça, jamais.
Du coup, des commandes en terrasse depuis février, on a dû en sortir une centaine, quoi.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les restos qui vous appellent ?
Faut se dépêcher, ouais. J'en ai besoin demain.
Et du coup, c'est quoi les délais si je vous demande une terrasse maintenant ?
Entre 6 et 8 semaines, ouais.
Ça vous laisse le temps de choisir la variété pour du pain des Vosges, par exemple. Ça coûte 28 euros le mètre carré. L'Aveline devant Bruyère, Arthur Mbaché, Europe 1.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de nouveau se réunir en urgence aujourd'hui pour évoquer la situation à Gaza. Depuis 8 jours, les bombes israéliennes et les tirs de roquettes du Hamas se répondent. Joe Biden annonce soutenir un cessez-le-feu. Chaque année, c'est le même casse-tête. Comment bien remplir sa déclaration de revenus ? Et cette fois, c'est même encore plus compliqué, la faute à la crise sanitaire et aux frais liés au télétravail. Laurent Benoudiz, le président de l'Ordre des experts comptables, vous explique comment les déclarer.
En fait, vous avez pu percevoir des indemnités versées par votre employeur avec un maximum de 550 euros au titre de l'année 2020. Eh bien, ces sommes ne sont pas imposables.
Par exemple, mon employeur m'a remboursé une partie de l'achat d'un nouveau fauteuil de travail ou me verse une contrepartie pour mes frais internet. J'enlève ça du revenu que je déclare ?
Exactement. Vous ne les déclarez pas à l'impôt sur le revenu, vous êtes exonéré. Alors après, il y a une autre option possible, c'est de les rajouter dans vos revenus, mais de déclarer par contre vos dépenses réelles. Vous savez, vous avez droit en fait à un forfait de frais professionnels de 10%. C'est un forfait, vous n'avez pas à justifier ces 10%. Si vous souhaitez renoncer à ces 10%, vous pouvez déduire les dépenses réelles que vous avez supportées en raison de votre activité professionnelle et notamment liée au télétravail.
Laurent Benoudiz qui était l'invité de Théo Manval sur Europe 1 ce matin, journée spéciale impôts sur notre antenne. Si vous avez besoin d'aide pour votre déclaration, rendez-vous au 3921 ou sur europe1.fr. Et puis la naissance d'un géant de la télévision, TF1 va racheter M6. Les deux groupes sont entrés en négociation exclusive pour aboutir à une fusion de leurs activités. L'opération qui pourrait aboutir fin 2022 devra être validée par l'autorité de la concurrence.
Merci beaucoup Émilie, c'était le journal de 8h30 à 8h34. 4, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Ouais, et la question qui nous obsède, la question que l'on me pose à chaque coin de rue, en disant, bon, c'est quand l'anticyclone ? Malheureusement, l'anticyclone, écoutez, demain, il aura une petite... Non, oui, jeudi, il va faire une petite visite. Il va nous rendre une petite visite de l'ordre de quelques heures, et il va donner non pas un grand soleil sur les régions de France, mais de la brume. Puis ensuite, le congé de Pentecôte s'annonce malheureusement humide et frais, avec des ondées, et peu de chances d'avoir une plage de soleil importante durant ces 3 jours du congé de Pentecôte. De côte. La semaine prochaine, en principe, l'anticyclone reviendrait, mais ce serait vraiment à la fin du mois, ce qui corroborerait les prévisions que je vous donnais il y a de cela 15 jours. Et malheureusement, il s'avère que ce mois de mai aura été pourri. Allez, on n'en est pas là. Retrouvons le sourire. Entre 15 et 25 degrés, température maximale du jour, avec des pluies surtout présentes dans le sud-ouest. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Dans un instant, notre santé avec Jimmy Mohamed. Tiens, Jimmy, vous reconnaissez ?
Ça apprend. Et oui. Et je vous fais ce matin une ordonnance assez particulière puisque justement je vous propose d'aller au cinéma et ça c'est le docteur qui vous le recommande pour votre santé.
Ouais, enfin présentez pas non plus la carte vitale, ça sert à rien, mais on va en parler dans un instant quand même, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1.
Notre santé est présentée par Atoll et l'innovation Lexilence, les premières lunettes qui peuvent faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques.
Notre santé, c'est avec Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les lieux de culture vont rouvrir demain et vous allez nous parler des bienfaits. Alors, c'est vrai que vous nous avez fait, ça fait une semaine que vous nous parlez des terrasses, le soleil, les yeux, le plaisir de ne pas boire un soda. Hein, si j'ai bien exact. Compris ce que vous nous disiez. Oui, je résume un petit peu. Là, les lieux de culture, oui, ils rouvrent demain aussi. Vous nous parlez des bienfaits du cinéma sur notre santé mentale.
Eh oui, je me transforme presque en influenceur cinéma, mais je vous promets Mathieu que c'est pour la bonne cause. Alors, aller au cinéma, c'est le deuxième loisir qui donne le plus envie aux Français, juste derrière manger au restaurant. Et près de 6 Français sur 10 déclarent vouloir aller voir un film en salle. Alors, avec l'abondance des plateformes numériques, on pourrait se dire que le cinéma n'a pas d'intérêt particulier. Sauf que vous ne consommez pas un film sur le grand écran de la même façon que devant votre télévision. Vous allez probablement, pour aller au cinéma, vous donner rendez-vous, faire la démarche de vous habiller. Enfin, je l'espère, de sortir, de marcher, de vous retrouver et profiter tout simplement de votre séance en pleine conscience. Et puis, n'oubliez pas que le cerveau aime la frustration. Il est dans l'attente et ça va permettre de générer, de renforcer le pic de dopamine et donc tout simplement d'augmenter votre plaisir. Et puis, au-delà du lien social et du divertissement, en allant au cinéma, vous êtes dans une démarche active. Contrairement à l'excès de films ou de séries qu'on peut consommer sur notre canapé, vous allez donc rendre l'expérience du grand écran tout simplement plus savoureuse. Et je vous ai même pas parlé, Mathieu, du pop-corn caramélisé que vous pourrez consommer.
On le sait, les enfants adorent aller au cinéma. Est-ce que ce serait bon pour leur développement à eux aussi ?
Eh oui, car ça permet tout simplement de renforcer le lien et de passer du temps avec les parents en proposant une activité dont eux aussi ont été privés depuis longtemps. Et puis, mine de rien, en fonction du film que vous allez choisir, il y a souvent, comme dans les Fables de La Fontaine, une intrigue qui laisse place à un enseignement aux enfants. Si on prend l'exemple de mon film préféré, Toy Story, eh bien les enfants vont pouvoir apprendre la loyauté de Woody. Et puis je vous rappelle la célèbre formule dans Le Roi Lion de Timon et Pumba, Hakuna Matata, permettant de prendre tout simplement la vie du bon côté.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique.
Vous êtes en train de nous lire votre disserte de philo au bac ? Du côté Covid, Jimmy, comme pour les terrasses, le risque est limité dans une salle de cinéma, il faut le dire.
Eh oui, tant que vous gardez votre masque, la probabilité de contracter le Covid est proche de zéro, d'autant plus qu'une salle est en principe suffisamment grande et bien ventilée pour limiter le risque de transmission. En revanche, le risque existe lorsque vous allez retirer votre masque pour manger ou boire. Mais pour limiter ce risque, eh bien, mieux vaut être vacciné tout simplement. Je vous rappelle que la vie d'avant passera probablement par la vaccination du plus grand nombre.
Tout à l'heure, on vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez. C'est l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1. Le thème aujourd'hui, Jimmy ?
On vous propose cet après-midi justement de vivre votre vie, mais en mieux. Et pour ça, on recevra la psychologue, Jeanne Siofassin. Vous allez voir, c'est passionnant.
Ah bah je vais écouter. Merci Jimmy Mohamed, il est 8h40. Tous les matins, nous retrouvons notre planète avec Fanny Agostini. Enfin, nous retrouvons Fanny Agostini avec notre planète. C'est aussi une manière de vivre sa vie en mieux. Ce matin, Fanny, vous nous parlez Bonjour Fanny d'abord, pardon.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ça va bien, ça va super bien, surtout après avoir écouté Jimmy.
Vous nous parlez ce matin de la première communauté énergétique des personnes qui se regroupent pour produire leur propre énergie.
Ben oui, c'est ça Mathieu. Concrètement, une communauté énergétique, c'est un ensemble de personnes qui investissent ensemble dans des moyens d'énergie renouvelable. En France, il y a quand même 11 000 foyers qui sont dans l'une de ces communautés. L'idée de base, c'est d'installer des panneaux solaires, par exemple, sur plusieurs toitures. On utilise l'énergie produite ou on la vend collectivement pour amortir la facture énergétique des membres. Et ce matin, je vous parle d'un changement de cap avec la start-up Beoga qui vient de lancer le premier circuit court de l'énergie en France qui concerne tout un village dans le Gard. Les foyers se partagent l'énergie que chacun d'entre eux produit.
Alors, vous voulez dire que l'énergie produite ne passe pas par le réseau national, non ? Comment est-ce qu'ils font ?
Eh bien, on sait que l'énergie se stocke mal. Hein. Vous savez, elle doit être consommée en temps réel. Il faut toujours faire correspondre les quantités demandées et les quantités produites pour éviter de gaspiller. Dans les communautés énergétiques, les producteurs devaient jusqu'ici revendre leur surplus d'énergie et l'injecter dans le réseau de distribution générale d'électricité. Mais là, je vous parle d'une énorme avancée. En récupérant les données de consommation et de production de tous les membres d'un même quartier ou d'un village, par exemple, en temps réel, eh bien, les nouveaux compteurs utilisés par Beoga permettent à un algorithme de redistribuer le surplus d'énergie d'un foyer vers un autre qui en manque. Et quand il y a un surplus général de production d'électricité dans toute la communauté, eh bien l'algorithme renvoie l'énergie vers des voitures électriques qui servent de batterie puisqu'on peut les charger et les décharger.
Et les décharger, évidemment. Les innovations appliquées par Beoga vont peut-être venir révolutionner la production d'énergie.
Bah, c'est tout à fait possible, hein, vraiment. Les compteurs intelligents et les algorithmes étaient le dernier obstacle technique pour que des communautés puissent produire une énergie renouvelable et contrôlée localement. De quoi donner un coup de boost à un mouvement qui décolle doucement en France. Au-delà de Beoga, dans le Gard, on compte aussi le projet Grésy 21 en Isère et celui d'énergie citoyenne à Grenoble. Sans oublier le financement de coopératives de production d'énergie renouvelable par énergie partagée à l'échelle nationale. L'énergie sera probablement demain partout en circuit court, ce qui, d'un point de vue environnementale, changerait totalement la donne.
Merci Fanny Agostini, notre planète, tous les matins, c'est sur Europe 1. Il est 8h42 et dans quelques secondes, Nicolas Canteloup avec Julie, qui est déjà là.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour. Allons-y.
Oui. Bonjour Julie.
Bonjour
Julie. Bienvenue sur Europe 1. Si vous regardez Europe 1, enfin si vous écoutez Europe 1, regarde le monde fêter. Et oui, car demain, c'est la réouverture des terrasses demain. Vous le savez, ça y est. Plus qu'un seul dodo, nous le disons à nos auditeurs. Et oui, c'est vrai. C'est un petit peu comme à Noël, mais en plein mois de mai. Remarquez, on en parlait avec Laurent Cabrol, la même température qu'à Noël dernier. Donc, voilà. Dans un dodo, on peut ouvrir les paquets, les paquets de chips, par exemple, les paquets de cacahuètes, même les paquets de bière, finalement. Allez, l'info du jour, c'est, vous l'avez entendu, TF1 qui va dépenser 641 millions d'euros pour acheter seulement 30% d'M6. Quelle arnaque, franchement, pour le prix de Neymar et Mbappé. Ils ont eu Stéphane Plaza et McLeisky. Et puis, allez, l'autre info, parce qu'on a plein d'infos sur Europe 1. On a plus d'infos que sur les autres radios. L'autre info, c'est Gérald Darmanin qui se joindra à la manifestation des policiers qui aura lieu demain. Là, on s'adresse à lui. Monsieur Darmanin, non, c'est vous. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Vous n'allez pas aller gueuler en dessous de votre propre bureau. Hein. Personne ne va vous entendre puisque vous ne serez pas là. En plus. Il est perturbé, ce garçon, on dirait. Allez, à vous, Julie.
Merci, Mathieu.
C'était bien vu, quand même.
Bien vu, oui. Toute la France n'a en tête que la date de demain et la réouverture des terrasses. Bonjour, Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, j'ai lu la presse, je vois les mots de libération, de délivrance, de renaissance. Ouais. Alors déjà, on va se calmer sur le superlatif. Hein. On ne parle pas de la libération de la France en 44, on parle juste d'aller picoler entre ivrognes et en terrasse. Donc calmos, ok ?
Alors tout le monde se réjouit, les bars, les cafetiers, les magasins non essentiels. On entend aussi la détresse des patrons de boîtes. Hein. Les maires de Saint-Tropez, de Biarritz, de La Baule aussi sont solidaires. Ils ne veulent pas d'un nouvel été sans discothèque.
Oui, alors, ouais. Pardonnez-moi, je le dis vraiment sans condescendance aucune, mais les maires de villes de bord de mer ne sont pas pour moi l'incarnation de la politique. Non, ce sont plus des espèces de chefs de village du Club Med. Hein. Non, mais franchement, une ville de bord de mer, j'ai beaucoup de respect pour les chefs de village du
Bien
Club
sûr,
Med.
Oui.
Mais une ville de bord de mer, voyez-vous, c'est un peu un camping géant. Hein. Vous gérez la piscine, vous gérez la plage, l'élection de Miss Camping et puis le bal du vendredi soir. C'est pas tout à fait la même chose qu'être à l'Elysée. Hein, chacun son job.
Ouais, chacun son
c'est comme,
job.
Comment vous donner une image, c'est comme Eric Clapton et Mathieu Béliard, il y a une petite différence au niveau guitare, vous voyez.
Drôle d'exemple, ça, alors.
Plus qu'une, c'est vrai.
Comme alors, Garage Béliard et Midas,
oui,
c'est une
c'est
différence
bon,
aussi.
Bon. Voyez, bon. Oui, c'est d'accord. Un mot de cette info de l'OMS, monsieur le Président. Travailler plus de 55 heures par semaine augmente le risque de décès.
55, non mais allez, tous les prétextes franchement sont bons pour pas bosser, c'est fou. Hein,
quand même,
Écoutez, dès qu'il y a une opportunité à rien foutre, vous la laissez pas passer. Hein. Comment on va faire pour retrouver notre croissance, franchement, avec un pays qui refuse de travailler et de faire quoi, quelques heures supplémentaires par l'enfant.
Non mais on veut bien travailler, mais 55 heures, non, c'est pas bon pour la santé, voilà ce qu'on nous dit.
Honnêtement, franchement, j'ai de la peine pour vous. 55 heures, je fais ça pendant mes semaines de vacances.
Bon, bah écoutez, c'est pas le cas de tout le monde, en tout cas. On va changer de sujet. Donc, on reprend les maires des villes du littoral qui craignent des fêtes sauvages sur les plages cet été si les discothèques ne rouvrent pas. Et on est en ligne avec une discothèque.
Kevin, Je sens pas assez les basses là. Pousse un peu au niveau des basses.
Oh là là, mais
vraiment, qu'on ait envie, tu vois, de move it, move it.
Mais François Bayrou, mais qu'est-ce que vous faites en boîte? Et à cette heure-ci, en plus, comme disait Mathieu.
Attendez, une seconde, Madame Julie. Oui. Kevin.
Oh là là.
Oui, on a bien move it là. Si tu enchaînais avec un son, tu vois,
mais
un petit son un peu plus, comment dire, sans. Sensuel, qui donne un peu plus aux gens envie de se rouler des gamelles. Voilà, voilà, ça c'est pas mal.
Vas-y, Francky.
L'idée c'est que ça chauffe les jeunes, tu vois.
Monsieur
là,
Bayrou.
Les jeunes ils vont aimer.
Monsieur Bayrou, mais on peut avoir une explication là.
Attends,
qu'est-ce que vous faites?
Coupe, je suis avec Europe. Oui. Ah, allô?
Oui, on peut avoir une explication?
Oui, pardon, madame Julie, vous le savez, je suis inquiet. Pour la natalité.
Ah oui,
il faut faire des
combat,
enfants.
Ça,
c'est
oui,
une,
oui.
Voilà, c'est une urgence. Alors, moi non plus, je ne veux pas de fêtes sauvages sur les plages, car que se passe-t-il pendant ces fêtes sauvages? Vous le savez, on boit, on mange des saucisses, on prend des bains de minuit dans de l'eau à 18 degrés, et on ressort du coup avec le ventre lourd et la zigounette microscopique. Donc je préfère de loin qu'on fasse venir les gens en boîte de nuit dans un cadre chaud, dans un cadre moite, où ils seront poussés à l'accouplement par les sons, comment dire, les sons les plus, comment dit-on, les plus caliente du moment.
Ah, c'est pas mal vu, remarque.
Bonjour, bonjour.
Oh non.
Je suis toujours là, c'est Dominique le Romantique. Je suis prêt, je le dis, je suis dispo, je suis raide et ready.
Oh non.
Oui, il y en a qui disent je suis jeune et jolie, moi c'est raide et ready.
Merci, mais non, franchement.
C'est de l'anglais.
Monsieur Strauss-Kahn, c'est bon là, vous pouvez disposer.
N'insistez pas.
François Bayrou, on revient à vous, puisque vous en parliez. Vous avez proposé de résoudre la crise démographique, de résoudre cette crise aussi par l'immigration et pas uniquement par la natalité.
Oui, par l'immigration, pas uniquement par la natalité. Mais encore que l'un n'empêche pas l'autre. Une Josiane de Montargis peut très bien larguer son Robert et trouver l'amour dans les bras d'un beau Sénégalais ou d'un Portugais torride. Bon, enfin voilà, mon année. Bon, écoutez, je vous laisse parce que je pardonnez-moi, mais je dois avancer sur ma playlist. Kevin,
mets-nous un petit son bien chaud pour donner à Monsieur Béliard l'envie d'en faire un quatrième. Voilà.
À cette heure-ci, 8h52, on est en pleine boîte de nuit. C'est bon, Monsieur Bayrou. Hein. Parlons de Sanofi maintenant. Allez, on arrête Gainsbourg. Sanofi annonce un vaccin pour la fin de l'année. On va en parler avec le directeur du laboratoire, Jean-Pascal Sanofi. Bonjour. Allô, allô, Monsieur Sanofi. Allô?
Allô? Allô?
Oui?
Allô, oui. Ah, pardon, désolé.
Ah,
oui, j'ai un petit peu de retard à l'allumage, des formations professionnelles. Alors oui, je tenais quand même à confirmer cette bonne nouvelle. Ça y est, notre laboratoire Sanofi a trouvé un vaccin.
Bon.
Nous allons donc enfin, pouvoir prévenir de futures épidémies de rougeole.
De rougeole? Ah bon, mais c'est pas sur le coronavirus, votre vaccin?
Oula. Hein? Oula. Non, chaque chose en son temps. Ne n'en pas faire dans la précipitation, si vous voulez bien. Hein, non, on finit d'abord la rougeole et ensuite on s'attaquera à la rage.
Non mais attendez, on les a déjà les vaccins pour ça. Le vaccin contre la rage, ça a plus de 100 ans.
Ah bon?
Bah quand même.
Ah mince, ah bon? Vous êtes sûr de l'information?
Ah bah mince. Oui.
Non, parce que nous, ça fait 7 ans quand même que nous travaillons dessus.
Non mais franchement, mais c'est le Covid qui nous intéresse. Heureusement que Pfizer ou Moderna ont déjà sorti leur vaccin, hein.
Mais il y a déjà des vaccins disponibles, donc. Ah bah écoutez, alors tout va bien, vous m'avez fait peur, j'ai cru que nous allions devoir faire vite. Non, alors là, c'est bon, alors si vous avez déjà d'autres vaccins, si vous en avez déjà, on peut prendre notre temps. Bon écoutez, je vous laisse parce que je dois amener mes enfants à l'école.
Bah à cette heure-ci, mais il est tard déjà pour l'école.
Hein, quelle heure est-il? Oh, 8h50, oula, faut que je me mette une pile, moi. Non, j'ai du mal avec cette société où tout va vite.
Tout va trop vite. Bonjour, c'est Francis Cabrel.
Hey, salut Francis.
C'est vrai que je me rends compte que j'aurais pu travailler chez Sanofi.
Bah, oui.
Ils font les vaccins à la vitesse où je fais mes albums. Un bon album, un bon vaccin, faut pas se mentir, faut qu'on te dise.
C'était le sujet de l'édito sport de Virginie Fulpin ce matin. Et c'est aujourd'hui que Didier Deschamps va livrer sa liste pour l'Euro. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Mme Julie, M. Béillard, bonjour à tous, bonjour M. Cabrol. Alors bon, déjà, bon, pour la liste, déjà en attaque, je peux vous donner un scoop, hein, je ne prends pas Karim Benzema.
Ah bon, bah, alors vous prenez qui?
Oh, ben, qui vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Tant que c'est pas Benzema, moi, tout me va. Hein. Monsieur Cabrol, monsieur Béliard, vous voulez jouer, monsieur Béliard?
Mais enfin, Mathieu...
Ah ouais, non,
mais
attendez, excusez-moi, là, j'ai un truc à gérer, là. Oui.
Non, mais attendez,
ah oui,
mais franchement, je sais pas s'il a les qualités qu'il faut, Mathieu Béliard. Hein,
oh ben, il a au moins la qualité de pas s'appeler Benzema.
Déjà, déjà.
Ça c'est suffit pour faire... Ça suffit, oui, un peu de gaudriole ne fait pas de mal. Non, ça suffit pour faire partie des Bleus, vous savez, non. Vous allez voir la liste tout à l'heure, vous verrez, hein, vous aurez exactement cette réflexion aussi.
Merci Didier.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Il est 8h55 et Philippe Vandel nous a rejoint, c'est Culture Média qui va démarrer. Je vois qu'il est en train de, voilà, de peaufiner, de fignoler, de terminer. Philippe, bonjour.
Bonjour Mathieu, notre info média du jour va s'intéresser à un documentaire terrible sur les enfants enrôlés par Daesh. Ils sont fils ou filles de combattants. Ils n'ont pas d'autre choix que de suivre leurs parents dans des conditions inhumaines, jusqu'à être privés de soins médicaux, d'aide alimentaire ou encore de scolarité. On en parle avec sa réalisatrice de ce documentaire, Anne Poiret. Vous connaissez Marie au premier regard?
Oui.
Julie, vous connaissez?
Non.
Alors,
non.
C'est sur M6, ils mettent en relation des candidats qui ont envie de se marier, ils sont célibataires mais ils ne se connaissent pas.
Jamais
ils
vu.
Ont un taux de compatibilité formidable. Et ils se rencontrent devant le maire, ils se marient. Et vous savez quoi? Il y a 84% de taux de divorce. Sauf que, il y a un couple pour qui ça a énormément marché. Et la maman, puisque c'est une maman, est enceinte. Ils seront avec nous dans ce studio. Leur première radio, c'est Laure et Mathieu.
Génial.
Et puis enfin, on va recevoir Marc Lavoine, le chanteur. Ça, vous connaissez Julie, Marc Lavoine. Pour Mon Cartable, quelle histoire. Ouvrage collectif, très beau, rempli de souvenirs d'école. Et c'est une belle cause.
Philippe Vandel, Culture Média. C'est de 9h à 11h, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Je vous souhaite une très très belle journée. On va se retrouver demain en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Thank you.